Chers frères et sœurs, bien des personnes sont hostiles à la religion, sont hostiles à la religion en général et au christianisme en particulier. Et cela parce qu'elles pensent que les chrétiens croient des choses peu crédibles. Ils ont l'impression que les textes bibliques, par exemple, parlent d'autre chose que de la vie. Qu'ils sont comme des contes qui nous éloignent de la vraie vie en nous racontant des falaises. Eh bien, ces personnes se trompent lourdement. Parce que les textes bibliques sont d'abord une lumière portée sur la vraie vie, exposée justement de manière souvent très crue. Et c'était étonnant de constater que là où les personnes hostiles considèrent que les textes bibliques sont parfois même des niaiseries, bien des paroissiens, par exemple, considèrent que les textes, notamment de l'Ancien Testament, sont beaucoup trop proches de la réalité, beaucoup trop crus et beaucoup trop durs, trop violents, comme l'est notre vie. Eh bien, les textes bibliques ne nous offrent pas une sorte de monde parallèle. Ce que font les textes bibliques, c'est de nous faire toucher du doigt le réel, le dur, pour utiliser une expression plus contemporaine. Dans cette lettre aux Philippiens, c'est l'épisode de la croix qui tient lieu de réel. Les fantasmes de ceux qui imaginent Dieu comme un être surnaturel capable de faire ce qu'il veut quand il veut, viennent se fracasser sur la croix. L'idée selon laquelle notre salut viendrait d'un puissant sauveur aussi brillant qu'intouchable vient elle aussi se fracasser sur la croix et elle est même transpercée par quelques clous. La croix est ici une expérience du réel, qui ruine les espoirs aussi d'un chevalier blanc qui viendrait régler tous nos problèmes sans aucune difficulté. Cela pour dire que les chrétiens en particulier ne sont vraiment pas les bisounours que certains prétendent qu'ils sont. Les païens n'ont pas fait de déni au sujet de Jésus. Ils n'ont pas caché qu'il avait connu une mort honteuse. Ils n'ont pas nié que l'action de Jésus avait été contrecarrée par le pouvoir de l'époque. Ils n'ont pas maquillé le fait que les disciples avaient eu peur, que certains s'étaient vraiment mal conduits, et que tous avaient manifesté un manque de foi évident. Le christianisme est tout sauf un déni du réel. Le christianisme est justement une expérience du réel. Et je distingue le réel de la réalité. La réalité, c'est notre manière de représenter le réel, les choses. Le réel, ce sont les choses telles qu'elles sont, et la réalité, ce sont les choses telles que nous les percevons. C'est notre manière de comprendre ce qui arrive, et la réalité, de ce point de vue-là, est toujours partielle par rapport au réel. Le christianisme et le protestantisme, par exemple, sont-ils un déni du réel? On reproche suffisamment aux réformateurs, par exemple, de ne pas avoir hésité à parler de l'homme pécheur pour dire que l'homme est loin d'être complètement humain par lui-même. On a reproché à Luther et à Calvin, pour ne citer qu'eux, d'être finalement très dur, voire trop dur, dans leur présentation de l'homme. Et en fait, les réformateurs ne vont simplement pas cacher le réel de notre condition. Ils n'ont pas cherché à faire du croyant un être parfait, admirable en tout point. Cela parce que la foi chrétienne à partie liée avec la vérité. Et elle préfère ne pas travestir ce qui est, car c'est à la condition de ne pas travestir le réel qu'il est possible de prendre de bonnes décisions. Il me semble que nous pouvons même dire qu'être chrétien, c'est d'être sensible au réel. La foi, c'est le fait de voir les choses, de voir les personnes telles qu'elles sont et telles qu'elles pourraient être, et non pas telles que nous aimerions qu'elles soient, telles que cela nous arrange. Les chrétiens s'intéressent beaucoup plus au réel qu'à la réalité. Les chrétiens s'intéressent beaucoup plus à la vérité qu'à leur point de vue. C'est ce que dit l'Épître aux Philippiens. Ne considérez pas simplement votre propre intérêt, mais intéressez-vous aussi à l'intérêt des autres. Et cela est précieux, parce que c'est à la condition de tenir compte du réel, même si le réel fait mal, même si nous ne l'apprécions pas, même s'il nous blesse, même s'il nous fait honte, même si nous ne sommes pas très fiers. C'est à la condition de tenir compte du réel que nous pouvons construire le futur, que nous pouvons mener à bien des projets, que nous pouvons poursuivre nos engagements. Sinon, nos projets s'écroulent inévitablement, parce que dans ce cas, ils ne sont fondés que sur des chimères. Pour prendre en compte le réel, pour ne pas vivre dans le déni, il importe de nous débarrasser de ce qui nous empêche de voir clairement ce qui arrive et de nous débarrasser de ce qui nous empêche de bien prendre la mesure de ce que nous faisons. En théologie, il y a un terme technique pour cela. C'est un terme qu'on trouve d'ailleurs dans cette épître aux Philippiens, dans le passage que je vous ai lu. C'est un terme que je vous invite à retenir. Kénos. Vous voyez, c'est du vrai patois canard, mais c'est un patois utile pour notre vie quotidienne. C'est un terme grec qui désigne le vide. Se vider de soi, comme le fait Jésus selon ce passage biblique. Jésus s'est dépouillé de lui-même. Il s'est déchargé de ce qui l'empêchait de vivre sa pleine humanité. Pour ce qui nous concerne, ce qu'il y a à vider, c'est l'orgueil. Les maîtres spirituels, je pense par exemple à Jean de la Croix, nous pourrions aussi penser à Ignace de Loyola, indiquent que la première chose à faire dans une démarche spirituelle, dans une démarche de foi, c'est de chasser l'orgueil. Il faut y passer le temps qu'il faut, car rien ne pourra se faire tant que nous serons pleins de nous-mêmes. Et toute démarche spirituelle commence donc par le temps nécessaire pour se vider de soi, pour chasser l'orgueil. Martin Luther développera sa théologie de la grâce en opposition à l'orgueil qui consiste à croire que nous sommes justes en vertu de nos propres mérites, ou de penser que nous pouvons être la source de notre propre salut. Que nous serions auto-fondés. La kénose, c'est donc se vider de soi. Et c'est donc faire de la place, ne pas se vider de soi pour le seul plaisir masochiste de se faire du mal. C'est pour faire de la place. Lâcher nos fausses valeurs, ce qui ne passe pas à l'épreuve de la croix, ce qui n'est pas capable de ressusciter, afin de pouvoir accueillir ce qui est vraiment essentiel. Nul ne peut faire ce travail à notre place. Nous pouvons être aidés, nous pouvons être stimulés, nous pouvons être encouragés, mais il n'y a que nous pour faire le ménage en nous-mêmes. C'est à nous de faire le tri. Après avoir pris conscience que nous n'avons pas la science infuse, que notre regard sur les événements est toujours partiel, biaisé, et que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. C'est à nous d'entreprendre le grand nettoyage de printemps, qui chassera tous ceux qui nous encombrent inutilement, de manière à faire de la place pour ce qui est fondamental. Et c'est d'ailleurs ainsi que les Juifs se préparent à fêter Pâques, un grand nettoyage de printemps. On retire même le levain, tout ce qui pourrait être un empêchement au foisonnement de la vie. Nous trouvons un exemple de cela dans le Don Juan de Molière. Il y a cette scène tout à fait intéressante lorsque Don Juan traverse une forêt et rencontre un mendiant. C'est l'acte 3, la scène 2. Pour ceux qui ne connaissent pas Don Juan, je crois qu'on peut dire que c'est un être orgueilleux, plein de lui-même, suffisant. Et il rencontre donc un mendiant qui s'avère être un homme pieux. Et Don Juan est d'accord pour lui donner un louis d'or, mais à la condition que l'homme maudisse Dieu. L'homme refuse. Don Juan insiste. L'homme tient bon. Et finalement, Don Juan lui donnera le louis d'or sans contrepartie. Presque par grâce seule, ou plus exactement, peut-être parce qu'il a repéré chez ce mendiant quelque chose de bien supérieur à ce qu'il a connu jusque-là. Peut-être parce qu'il a découvert chez ce mendiant une hauteur d'âme, une qualité d'existence supérieure à la sienne. Manifestement, le mendiant avait fait le ménage en son fort intérieur. Et ce mendiant considérait manifestement que l'argent ne l'emporte pas sur tout. Qu'il n'est pas bon de sacrifier l'essentiel sur l'autel de l'argent. Manifestement, le mendiant a donné à voir quelque chose qui ne laisse pas Don Juan indifférent. Et j'en veux pour preuve la fin de cette scène. Un homme est attaqué par trois autres hommes. Et la dernière phrase indique que Don Juan se préoccupe de cette situation, qu'il la trouve injuste et qu'il décide donc de porter secours à l'homme attaqué de façon tout à fait déséquilibrée. Autrement dit, le mendiant, qui est vide de tout bien matériel, indique un creux susceptible de creuser aussi l'orgueil de Don Juan. L'homme était vide de valeur relative et il inspire à l'homme plein de lui-même quelque chose qui l'aide peut-être à se décharger de son trop-plein, de son auto-centrage et à devenir peut-être un peu miséricordieux. Cette démarche, c'est donc celle que fait Jésus dans cette épître aux Philippiens. Et cette démarche a un nom, c'est la démarche de l'humilité. Ce terme, d'ailleurs, revient deux fois dans le texte. L'humilité, c'est à vrai dire la démarche chrétienne par excellence. La démarche au-dessus de toutes les autres voies. Les chrétiens ne devraient jamais être orgueilleux, pas plus qu'il ne devrait être bisounours. Par contre, je crois qu'il n'est pas faux de dire que nous ne pouvons pas nous considérer comme chrétiens si nous ne faisons pas preuve d'humilité. Et il ne s'agit pas simplement de donner des gages d'humilité. Il s'agit à vrai dire d'être humble, véritablement, profondément. Et là encore, il ne faut pas être naïf. Nul ne saurait être parfaitement humble. Ce qui importe, c'est de ne jamais renoncer à l'humilité, mais de la considérer comme une vertu à entretenir. L'humilité dont fait preuve Jésus est à distinguer de la modestie. Et je prends le temps de faire distinction entre humilité et modestie, car très souvent, nous voyons des gens faire preuve de modestie pour nous faire croire qu'ils sont humbles. La modestie est une fausse humilité, à vrai dire. La modestie consiste à faire profil bas, à se rabaisser pour se faire remarquer en fait, et pour attirer la lumière sur soi. À l'image de ce pharisien de l'Évangile qui fait une prière dite d'humilité, de façon très ostensible évidemment, pour qu'on s'extasie devant sa piété. La fausse humilité, c'est de croire que Dieu portera sur nous un regard favorable parce que nous prions de quelque chose, ou que nous prenons une petite mine, ou que nous feignons l'accablement. L'humilité est bien autre chose que cela. L'humilité consiste à prendre conscience que nous tirons notre existence d'un autre que nous-mêmes. Et l'humilité consiste à plonger ses racines dans l'humus, dans le terreau fertile, l'humus. Au même titre qu'Adam vient de la Adama, ce terme hébreu qui désigne l'humus. Eh bien, la meilleure façon de devenir humain, c'est de se nourrir de l'humus, une terre fécondée par d'autres que nous. Qu'est-ce que l'humus? C'est la terre de nos anciens. C'est la terre de ceux qui nous ont précédés. C'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été. Et en plongeant nos racines dans cette terre, nous nourrissons d'autres choses que de nous-mêmes. Nous mettons à l'école des anciens, de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont accompli quelques œuvres qui nous ont permis d'en être là aujourd'hui. Jésus, après sa kénose, après s'être vidé de soi, devient semblable aux hommes qui le testent. Il devient anthropos. Ça, c'est le terme grec. En hébreu, c'est Adam. Un être chargé d'Adama, d'humus, d'humanité. Alors, estimer les autres supérieurs à eux-mêmes, ce n'est pas un geste de modestie. Tu reviendrais à dire à quelqu'un qu'il est plus fort ou plus intelligent pour que celui-ci nous dise non, tu es brillant, tu as de la valeur, etc., et qu'il nous relève. Et puis, il fasse de nous d'un seul coup un être exceptionnel, qui nous dresse une couronne de gloire et qu'on nous mette sur un piédestal. L'humilité, qui est possible dans la mesure où nous sommes débarrassés de l'orgueil, que nous ne cherchons pas les titres de gloire, justement, constate que les autres sont porteurs d'une part de vérité qui nous échappe, que les autres sont riches d'expériences, d'observations, d'analyses qui peuvent accroître notre compréhension du monde, de nous-mêmes, de ce qu'il y a de bon à vivre dans notre quotidien. L'humilité, c'est la découverte que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, pour reprendre le verset de l'Évangile, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui souille l'homme. L'humilité, c'est se mettre à l'école des autres. Non pas en prenant pour argent comptant tout ce que les autres nous disent, mais en puisant dans ce qu'ils sont, dans leur patrimoine, pour leur savoir ce qui nous sera utile. Il n'est pas rare que notre vision des choses soit nette, cela nous arrive de voir clairement quelque chose. Mais c'est toujours partiel. Et avoir une vision partielle des choses nous prive d'une bonne compréhension. Il se pourrait par exemple que trois aveugles, mis en présence de quelque chose qu'il s'agit d'identifier, disent que ce qui est dans la pièce où il se trouve soit un arbre pour l'un, une lance d'incendie pour l'autre, un balai pour le troisième. Aucun n'a tort, aucun n'a raison. Chacun n'a tenu compte que d'une partie de ce qui était à identifier, qui est, dans cet exemple, un éléphant. Qui aura touché une patte, qui aura touché la tête, qui aura touché la queue. L'humilité qui consiste à reconnaître la supériorité des autres, c'est-à-dire à prendre conscience que nous nous approchons de la vérité à mesure que nous nous ouvrons à d'autres points de vue que le nôtre, à d'autres analyses que la nôtre, et la manière par laquelle nous pouvons être élevés. Je reprends le terme de l'Épître aux Philippiens. L'humilité, c'est cette démarche qui nous rend accueillants, qui nous rend peut-être mendiants, mendiants de la grâce, accueillants de ce que la vie a à nous offrir, disponibles pour ce que l'histoire nous présente, ce qu'elle nous offre de bon et de réjouissant. Eh bien, c'est cette démarche d'humilité qui nous ouvre à notre pleine humanité.